Veuillez écouter ce message personnel. Le FN est bien un parti d'extrême droite. Je répète, le FN est bien un parti d'extrême droite. La blondasse avance masquée. Je répète, la blondasse avance masquée. Pom 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 pom. Pom 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 pom.
Dans ces politiques, Raffarin, ça n'est pas le premier loin de là, mais sur un même plan le Front National et le Front de Gauche. Ça va beaucoup intéresser sans doute ces militants et ces électeurs de base qui, pour plus de la moitié d'entre eux, sont pour une alliance avec le Front National, mais en aucun cas pour une alliance avec le Front de Gauche, bien évidemment. Et méfie-toi, Raffarin, à force de vouloir confondre les deux, si ça se trouve, un jour, tes électeurs vont voter Front de Gauche.
Salut, c'est Agathe de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois. Eh oui, on est encore quelques-uns à y être encore. Bon, mais je n'appelle pas pour vous dire comment Varin tient ses promesses. Vous savez, ce PDG de PSA qui avait prétendu que personne n'irait à Pôle emploi. Non, j'appelle pas pour vous raconter l'ambiance à l'usine et comment Peugeot s'y prend pour casser le moral des ouvriers, les inciter à s'auto-licencier. Ou pour vous dénombrer le peu qui ont retrouvé du boulot, même en intérim, après avoir quitté l'usine, dégoûté. Pas non plus pour vous expliquer comment mon pote Fred, qui élève seul son poste, va payer le crédit de son appart à Villepinte maintenant qu'il est lourdé. Ou ma copine Fatima a bondi. Je n'appelle pas non plus pour énumérer les vieux cassés par les annexions qui n'entrent pas dans le plan senior. Je pourrais vous dire comment, si on décide de rester dans le groupe, on nous propose que des postes aux conditions de travail dégradées. Je pourrais vous raconter qu'on n'arrive pas à se reclasser en dehors de PSA, même dans ces grandes boîtes, vous savez, comme la SNCF, la RATP, ADP, avec qui pourtant notre cher PDG Varin a signé des conventions. Mais non, j'appelle pas pour nos petites misères. J'appelle pour vous faire part de misère de ce même Varin, justement. Eh oui, le pauvre. J'ai appris aujourd'hui sur Internet qu'il s'est fait dérober pour 500 000 euros de devises étrangères et de bijoux à son domicile. La même somme que son ami Robert Peugeot s'était fait piquer dans sa salle de bain. C'est vraiment incroyable, 500 000 euros. Tiens, trois fois plus que le crédit de ma copine Fatima pour acheter son pavillon à Bondy. Alors 500 000 euros, je compatis, si c'est pas malheureux tout ça, des gens si honorables qui se font piquer leurs bijoux comme ça, 500 000 euros, c'est quand même pas rien. À croire qu'ils n'ont plus de gardien ou de portier, ces gens-là. Peut-être qu'ils les ont licenciés avec les 11 000 autres de chez PSA. Et il y a un salarié viré qu'on a profité pour venir récupérer une vraie prime de licenciement, dis donc.
Vous m'étonnez là sur la Syrie, comme si les États-Unis faisaient la guerre par stupidité, comme s'ils n'avaient pas une volonté de détruire les nations pour qu'elles soient livrées à leurs appétits. Non, mais je veux dire, je vous rappelle qu'en Irak, après la guerre, ça a été toutes les entreprises américaines, Dick Cheney, etc., qui s'est gavé quand même. Ça, comme, quel rapport avec la stupidité? C'est juste la logique. Le capitalisme porte la guerre en lui comme la nuée porte l'orage. C'est clair quand même.
Bonjour Daniel, c'est Bernard. Pourquoi vous ne parlez pas de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, 12 millions de morts au Congo, Congo Zaïre, personne n'en parle, mais vous parlez de la Syrie. Vous savez, l'uranium, c'est partout maintenant à cause de mon pays, des Zaïres. Merci, au revoir.
Merci pour ces messages et surtout ces deux derniers messages, ce rapprochement entre ce qui se passe en Syrie et ce qui se passe en République démocratique du Congo. À l'est du Congo, vous vous souvenez, on avait fait des reportages dans le nord et le sud du Kivu, où la quantité de morts depuis une dizaine d'années, on n'est pas à quelques millions près. Et ces endroits du monde, il faut bien dire qu'on s'y intéresse très peu. Ça ne nous saisit pas le cœur autant que d'autres parties du monde. Et pourtant, l'horreur est là. Les enfants meurent, souffrent. Les femmes sont massivement violées dans cette partie du monde. Mais voilà, ça nous intéresse moins ou pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse davantage, effectivement, à la Syrie qu'à ces endroits-là? C'est des questions qu'on peut poser et des questions auxquelles il n'est pas si facile que ça de répondre avec des réponses simples. Concernant la Syrie, ce qui s'est mis en place dans nos imaginations, dans les représentations qu'on peut se faire, c'est un côté, d'un côté un tyran hideux et de l'autre un peuple qui souffre et qui se révolte. C'est odieux, c'est terrible, mais enfin, c'est la routine, on ne sait pas tout, c'est loin, c'est compliqué, et on sait bien qu'il faut quelque chose de plus pour faire flamber l'opinion, pour sidérer l'opinion. Il faut l'assassinat d'un président, il faut la menace d'armes de destruction massive, ADM, ou bien l'emploi d'armes chimiques avec les images de cadavres d'enfants. Alors là, tout devient simple, il n'est plus utile de réfléchir, on ne peut pas ne pas intervenir et la colère s'empare de chacun et la colère est un grand vent qui éteint la flamme de l'intelligence. Il s'est passé ces jours derniers cet extraordinaire retournement entre cette sidération dans laquelle nous étions suite à ces attaques d'armes chimiques et puis ce calme, peut-on dire, qui est intervenu brusquement. Les va-t-en-guerre ont troqué, retourné leur veste kaki et sont allés vaquer à d'autres sur d'autres sujets. C'est quand même un phénomène intéressant et étonnant. Pour cette fois, nous attendrons un peu avant de partir en guerre avec tous les alibis dont nous savons ordinairement nous parer, la paix, la sécurité et la démocratie qu'il faut apporter tout à fait cessante à ces peuples barbares, comme en Irak, comme en Afghanistan, comme hier au Vietnam. Comment comprendre les enjeux derrière ces monstrueuses mises en scène au nom de nos valeurs et de la civilisation? Eh bien, comment comprendre? Il faut bosser, il faut étudier, il faut se calmer et essayer de comprendre. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec Georges Corme. Georges Corme, vous le connaissez, vous vous souvenez, il est passé dans cette émission il y a quelques mois sur la résolution profane des conflits. Il est libanais, il est historien, il est économiste, il est ancien ministre des Finances de son pays et on a pensé que c'était intéressant de l'écouter, ouvrir plus largement la connaissance que nous pouvons avoir et de cette région et de ce conflit dont il considère qu'il est quelque chose d'essentiel, qu'il y a là quelque chose de fondamental qui est en train de se passer et un risque énorme, non seulement pour cette région du monde, mais bien au-delà. Voilà notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ah, pas de merde, mais tiens, je vais dans mon jardin. Ah, petit myosotis, jolie fleur fragile dans mon jardin quand je pisse. Pour t'épargner, j'arrose le bout de mes...
Dédié à Dédé, l'aidé. Au sommet d'une haute tour, une princesse mourait d'ennui. Cela faisait 50 jours qu'elle n'avait pas vu un zizi. Le prince partit à la bataille, son valet trop vieux pour la chose. Elle tricotait une cotte de maille, mais coudre la rendait morose. À l'onanisme peu encline, elle dut cependant se résoudre à se réjouir l'arrière-cuisine avec un simple dé à coudre. Or, elle éprouva tant de joie en sa princière solitude qu'avec un dé à chaque doigt, de jouir, elle prit l'habitude. Sa couturière, l'ayant surprise à jouer ainsi avec les dés, releva sa grosse chemise et lui proposa de l'aider. Elles se branlèrent tout le jour, les murs en furent les témoins, car elles ébranlèrent la tour qui s'effondra sur leur câlin. Le prince, revenu de la guerre, découvrit sa femme dénudée sur un énorme tas de pierres, en pleurs et réclamant Dédé. C'était le poète obsédé Dédé. Salut !
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Avec Georges Cormes. Siri, qu'est-ce qu'on attend ?
Flight number 2, arriving from New York.
Alors là, Georges Cormes, j'ai fait les choses sérieusement.
Bravo.
Ah oui, très très sérieusement pour vous interroger, oui, pour parler avec vous. J'ai sorti une carte du Moyen-Orient.
Bon.
Voilà. Bon. Là maintenant, je peux savoir de quoi je parle. Et au milieu de cette carte, tout petit, 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 je vois un tout petit pays qui s'appelle le Liban. D'où vous venez, où vous vivez, à côté d'un tout petit, petit, petit pays qui s'appelle Israël, qui vous intéresse, mais tout comme vous intéresse toute cette région, et notamment, évidemment, en ce moment, la Syrie.
Israël n'est pas aussi petit que ça, avec l'occupation de la Cisjordanie et du Golan syrien, ça fait une superficie beaucoup plus importante que celle du Liban.
Mais si je regarde à côté, Georges Cormes, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, la Turquie ou l'Égypte ou le Soudan, c'est
même
quand
la Syrie, oui.
Je suis en train de contempler des confettis, mais des confettis extrêmement importants, évidemment, des situations tout à fait cruciales. Parlez-moi d'abord du Liban, comment ça se passe en ce moment avec, effectivement, ces réfugiés de Syrie qui s'installent chez vous ?
D'abord, je crois qu'il faut souligner le côté positif des Libanais qui ont très souvent, dans les zones rurales pauvres qui sont contiguës à la Syrie, ont ouvert leur maison à beaucoup de réfugiés avec lesquels il peut exister des liens de famille. Heureusement, nous n'avons pas de camp. Vous savez, des tentes, très souvent, les réfugiés sont chez l'habitant ou ils sont dans des bâtiments publics que l'État a mis à leur disposition.
Combien de Syriens réfugiés au Liban ?
Alors, le Haut Comité aux réfugiés des Nations Unies parle de 750 000 à peu près actuellement. Alors, il y avait tous les ouvriers syriens qui étaient là
depuis longtemps,
qui, à mon avis, ont dû aussi profiter pour amener leur famille et donc aller se déclarer comme réfugiés. Donc, ça peut éventuellement gonfler les chiffres, mais c'est quand même très lourd. Hein. Ça pèse sur la consommation électrique. On sait qu'au Liban, on a des problèmes d'approvisionnement électrique. Ça pèse sur le budget de l'État, qui n'est pas en bon état. Ça peut poser des problèmes dans la mesure où se glissent parmi la population réfugiée des combattants de l'opposition qui viennent se faire soigner ou autre avant de repartir au combat de l'autre côté.
Mais est-ce qu'on craint un embrasement du Liban ?
Personnellement, je ne pense pas qu'il y aura d'embrasement du Liban. Il y a eu beaucoup d'essais, si vous voulez. On peut repartir de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri en 2005. Depuis 2005, le Liban a vécu très dangereusement, avec une situation de sécurité qui n'a jamais été idéale, avec l'attaque israélienne de 2006, avec ensuite la grande bataille dans le camp de réfugiés palestiniens qui avait été investi par des combattants islamistes de Fatah al-Islam, ce qui a coûté à l'armée 250 morts pour arriver à les faire sortir de là et à les réexpédier beaucoup d'entre eux directement en Arabie Saoudite. Ils ont même été soustraits à la justice libanaise. Bon, heureusement que l'armée libanaise est là, et il faut saluer sa capacité à maintenir l'ordre, notamment dans la ville de Tripoli, par exemple, ou dans la ville de Saïda. Et vous avez beaucoup d'essais de déstabiliser l'armée libanaise. Il y a eu des appels à ce que les soldats désertent, par exemple, de la part de députés de certaines régions ou du courant du futur de la famille Hariri. Mais ça n'a pas marché. Je pense que ça ne marchera pas aussi. Je pense que le Liban ne connaîtra pas un embrasement général. Alors on aura constamment des problèmes de sécurité aujourd'hui dans toutes les zones frontalières avec la Syrie, notamment dans la Bekaa, parce qu'il y a des problèmes. Il y a la Syrie, il y a l'armée syrienne qui exerce un droit de poursuite parfois sur les groupes d'opposants armés, où il y a parfois des obus qui tombent, ou bien il y a des opposants armés qui vont du Liban vers la Syrie. Donc les zones frontalières sont malmenés. Bon, quand il y a eu la grande bataille où le Hezbollah a été impliqué de Al-Qusayr, qui est tout près de la frontière libanaise, ça a calmé la frontière nord, mais il reste la frontière avec la Bekaa qui est encore très instable.
il y a aujourd'hui les moyens d'arrêter ce carnage.
BFM.
Ça fait un an.
22 août 2013.
Un an et demi, deux ans qu'on aurait pu le faire.
Bernard-Henri Lévy.
L'OTAN, la communauté internationale, la Ligue arabe, la France ont des avions, peuvent instaurer une no-fly zone sur l'essentiel de la Syrie, peuvent créer des zones refuge aux frontières de tel ou tel pays. Ce mythe d'une communauté internationale qui serait bloquée par le veto cynique des Russes et des Chinois, aujourd'hui, a quelque chose de répugnant, il y a quelque chose de révoltant.
Georges Cormes, j'ai devant les yeux deux documents. L'un, c'est le Monde diplomatique de ce mois-ci, qui titre « Cinglante débâcle de la diplomatie française au sujet de la Syrie ». Et puis, j'ai de l'autre côté un article de Bernard-Henri Lévy, vous savez, c'est un philosophe français qui écrit dans Le Point et qui nous dit à quel point il faut partir en guerre. Et vous savez à quel point la scène médiatique et intellectuelle française est complètement agitée par cette question et divisée dans cette question. Il faut intervenir. Je connais personne qui dise qu'il ne faut pas intervenir, à part des pacifistes, des munichois, ou des gens de ce genre, des lâches. Et puis, tout d'un coup, cette chose-là s'est complètement retournée, et la diplomatie française, comme le dit le diplo, a pris une claque assez étonnante. Bon, on va parler de ça, de votre point de vue là-dessus. Et puis après, on viendra, parce que j'ai lu des choses que vous avez écrites ou déclarées sur la Syrie, comment on en est arrivé là, ce serait peut-être intéressant, au lieu de choisir des positions et se saouler de rodomontades, peut-être de comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Alors tout d'abord, vous, quelle a été votre position? Elle a peut-être changé aussi, par rapport à l'intervention.
Non, personnellement, j'ai toujours été contre les interventions externes, notamment les types d'interventions au Moyen-Orient. D'ailleurs, je suis un peu étonné, un peu atterré souvent. Bon, on a vu l'invasion de l'Irak, ce qu'elle a donné, un pays fichu, par terre, qui ne parvient pas à se relever. On a vu ce qui s'est passé en Libye, un pays en plein chaos, où fleurissent les groupes qu'on appelle à tort djihadistes, qu'il faut appeler takfiristes, mais enfin, ne rentrons pas dans tous ces détails. Et donc, je ne vois pas comment on peut... Bon, on voit l'Afghanistan, à deux reprises, les interventions en Afghanistan, que ce soit pour chasser les soviétiques ou ensuite pour chasser les talibans, le résultat, il est nul. Des souffrances pour les populations civiles. Qui plus est, enfin, ce qui est très choquant, à mon sens, ce sont ces sanctions économiques. Parce que les sanctions économiques, elles affectent la population, n'affectent pas du tout les dirigeants. En plus, au contraire, pour les dirigeants, c'est du pain béni, parce que ça leur permet de resserrer le contrôle sur la population, parce qu'ils donnent des cartes de ravitaillement, n'est-ce pas ? Ça leur permet de faire les trafics les plus divers, parfois avec la complicité de certains hauts fonctionnaires, des organismes qui sont censés mettre en application les sanctions. Dans le cas de l'Irak, les 13 années d'embargo économique absolu, au dire de beaucoup de rapports Nations Unies, de la Croix-Rouge, a fait 500 000 de victimes parmi les femmes, les vieillards et les enfants. C'est un crime contre l'humanité, couvert par la légalité internationale, entre guillemets, puisque c'était des sanctions votées par les Nations Unies. Et puis, l'autre chose extrêmement choquante et très dérangeante, c'est qu'au fond, on ne cible les dictatures ou les dictateurs qui ne sont pas dans le sillage des politiques occidentales. Les dictatures, qui peuvent être parfois très très dures, mais dont la politique extérieure est alignée sur les pays occidentaux, Human Rights Watch, Amnesty International, tout ce monde-là est très peu présent.
C'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup Human Rights Watch se prononcer sur ce qui se passe en Arabie Saoudite. Pas très souvent sur ce qui se passe au Pakistan, pas très très souvent sur, mettons, l'armement en Israël. On n'entend pas beaucoup de protestations.
Sur Israël, c'est devenu un fait acquis que la population palestinienne est dans une prison collective. Elle est entourée par ce mur de 10 ou 12 mètres de haut. Elle vit dans des conditions terribles. C'est devenu un fait accepté par tout le monde, totalement banalisé.
Vous dites ce qui se passe actuellement
en Syrie, c'est une bataille titanesque. Alors on s'est dit, ah oui, 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 on sait, on a compris, bataille titanesque, c'est entre les chiites et les sunnites. Ah, c'est comme non, ça que ça nous est vendu, la plupart du temps. Et comme on sait que vous êtes pour une lecture profane des conflits, on vous avait reçu sur ce thème, où vous vous acharnez, essayez de faire comprendre que la lecture religieuse ne débouche sur rien, ne dit rien sur les enjeux...
Non seulement elle ne dit rien, mais elle les cache, les véritables enjeux.
C'est ça. Alors, dévoilez-nous.
Elle est destinée à les cacher.
Georges Cormes, dévoilez-nous les enjeux.
Quand j'ai parlé de bataille titanesque, j'ai dit que si vous voulez que les questions domestiques syriennes étaient presque devenues tout à fait secondaires par rapport à tout ce qui s'est greffé sur la situation syrienne d'un axe, Russie, Chine, Iran et d'autres pays émergents d'ailleurs, en arrière-fond, qui a carrément déclaré que c'était terminé l'unilatéralisme américain et de l'OTAN. Et cette domination absolue du Moyen-Orient par ses intérêts occidentaux. C'est ça ce qui se joue en Syrie. Et d'ailleurs, bon, récemment, dans ce rebondissement où les Russes sont sortis de leur manche, mais on va mettre les armes chimiques en Syrie sous contrôle international et on va les détruire, ça a désarçonné tout le monde. Et le régime qui a accepté immédiatement, ça a désarçonné tout le monde. Et ça a redonné de l'initiative à la partie adverse, si vous voulez.
La France est où là-dedans? Elle est plutôt... Il y avait un pays qu'on appelait le caniche des États-Unis. Est-ce qu'on est le deuxième caniche ou on a remplacé le premier?
Ouais, écoutez, ça, enfin, ça fait de la peine. Moi, j'ai été heureux quand j'ai vu Mme Merkel ou la Chambre des députés britanniques dire non à des bombardements sur la Syrie. Et la France, au contraire, tenir ce ton. Mais j'ai été très étonné parce que quelqu'un comme Alain Juppé, qui est un personnage tout à fait respectable, modéré, rationnel, lui aussi avait immédiatement parlé de génocide, avait fait des déclarations absolument tonitruantes sur la Syrie. Je me dis, mais mon Dieu, que se passe-t-il donc? Et là, nous avons une espèce de continuité entre l'ère Sarkozy et l'ère Hollande, avec même, on pourrait dire, un crescendo, n'est-ce pas? Guerrier.
Avec une opinion partagée, contrairement à ce qui s'était passé pour l'Irak en 2003, où là on avait quand même un gouvernement qui s'était opposé à la situation de la France.
Oui, tout à fait. Et vous aviez des millions de gens dans les rues, dans toute l'Europe, hein, contre le...
Y compris aux États-Unis aussi, il y a des manifs.
Y compris aux États-Unis.
Aux États-Unis, tout ça n'a absolument...
Rien donné, oui, c'est là qu'on voit les limites de la démocratie dès qu'il s'agit de politique internationale.
Alors, les arguments en faveur de l'intervention militaire, ben, je vous en propose un récapitulatif.
France 3.
Il dure 2 minutes. C'est tous ceux qui sont pour l'intervention.
Ce soir ou jamais.
Aujourd'hui, je veux dire très clairement à Assad et à ceux qui obéissent à ses ordres.
Barack Obama.
Que le monde entier les observe. Le recours à des armes chimiques est et serait totalement inacceptable.
Le massacre chimique de Damas,
François Hollande,
ne peut rester sans réponse.
La communauté internationale,
Jean-Marc Ayrault,
ne peut pas laisser faire ce crime contre l'humanité.
Plus de 1400 morts, dont plus de 400 enfants.
Elisabeth Guigou.
Dans des conditions absolument horribles, sont évidemment des civils sans défense.
Qu'ils aient été perpétrés par des armes chimiques ou pas,
Jean-Pierre Filieu,
ne change rien au fait que nous sommes face à un crime contre l'humanité.
Est-ce qu'on reste silencieux?
Alain Vidaliès.
Est-ce qu'on fait rien face à un crime contre l'humanité?
Quand on a tenté de faire appel à ce qui reste de raison chez Bachar al-Assad et que ça ne marche pas.
BHL.
Qu'est-ce qui reste à faire?
L'histoire nous jugera tous.
John Kerry.
Si nous détournons les yeux sur les agissements d'un dictateur.
David Cameron.
Je crois fermement à la nécessité de punir l'emploi d'armes chimiques.
On attend quoi au juste?
La France est prête à punir ceux qui ont pris. La décision infâme de gazer.
Non, faut nous dire, hein.
Des innocents.
Si on n'y va pas, on n'y va pas. Moi, je veux juste savoir, on attend quoi, là?
Ne pas réagir, c'est laisser Bachar al-Assad poursuivre ses atrocités.
Qu'est-ce qui se passe après si on ne fait rien? Il y aura encore des utilisations d'armes chimiques, les dictateurs, pas seulement celui-ci.
Cette guerre civile menace aujourd'hui la paix du monde.
Non,
Franchement, ça commence à être inquiétant. Je vois des barbares barbus poilus se faire exploser tout le temps, c'est pas marrant. Il faut arrêter l'axe du mal, libérer le monde entier grâce à nos frappes chirurgicales depuis que l'Iran rêve de fabriquer la bombe atomique. J'ai des courbatures dans le ventre, une migraine, j'ai même une diarrhée chronique. Ils veulent nous exterminer, paraît que c'est un peuple de tarés, paraît même qu'ils battent leurs femmes,
paraît qu'ils puent tous des pieds.
C'est le choc des civilisations, ils sont encore au Moyen-Âge super rétro. Bah je suis sûr qu'à Téhéran, ils savent même pas ce que c'est qu'un marteau. Faut qu'on leur apprenne la démocratie, mais grâce à nos missiles, quitte à en payer le prix,
quitte à tuer quelques civils. Qu'est-ce qu'on attend, dites-moi qu'est-ce qu'on attend pour leur brasser à la gueule de nos missiles intelligents. Ceux qui ne tuent pas les gentils tuent seulement les méchants.
Ils veulent nous rayer de la carte, moi je propose un embargo tout de suite. Privons-les de Coca-Cola, de ketchup et de frites. Coupons les satellites, allez, fini Internet et les télécoms. Ils pourront pas appeler la Russie, ils n'auront jamais le iPhone. Tout comme Saddam et ses armes de destruction massive. Mieux vaut prévenir que guérir, faisons des guerres préventives. Il faut des troupes au Pakistan,
faut que ça bouge en Afghanistan.
Une bonne guerre civile au Liban,
il faut faire péter Téhéran.
Aidons le Moyen-Orient à se libérer des dictatures, avec l'aide d'Israël et de l'Arabie Saoudite qui pour les droits de l'homme assure. Nos navires sont déjà dans le golfe Persique, l'Iran est cerné de partout, on attend juste le déclic. Faisons-le pour nos enfants, pour les générations d'après, car ce n'est qu'en faisant la guerre, eh ben, que l'on aura la paix.
Mais où sont les djihadistes? Mais que fait l'Oran?
Mais qu'est-ce qu'on attend pour prendre leur président?
Qu'est-ce qu'on attend? Dites-moi qu'est-ce qu'on attend pour embrasser à la gueule de nos missiles intelligents. Ceux qui ne tuent pas les gentils tuent seulement les méchants.
We cannot wait anymore, we have to attack now, 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 now.
Alors, Georges Cormes, racontez-nous un petit peu comment on en est arrivé là en Syrie, chez vos voisins syriens, dans ce pays que vous connaissez bien. Vous expliquez, sans tendresse excessive pour la famille Al-Assad...
Non, sûrement pas, oui.
que les premiers à se révolter dans la période récente, ça a été les paysans, c'est la paysannerie syrienne.
Oui, mais ça, on le sentait depuis un moment. D'abord, il y a eu toute une série d'années de sécheresse, à fin des années 2000, et qui a entamé la base sociale du régime. Parce que la grande base sociale du régime, c'était, un, la bourgeoisie commerçante syrienne, des grandes villes, notamment Alep et Damas, bourgeoisie qui est massivement sunnite, pour démentir justement le cliché de c'est une guerre entre sunnites et chiites, et chrétienne, et la paysannerie qui avait été très choyée par le régime bassiste, depuis une réforme agraire d'ailleurs, qui s'était déroulée à 25 ans ou 30 ans, et finalement les gouvernements syriens successifs, toujours sous régime bassiste, avaient réussi cet exploit de faire de l'autosuffisance alimentaire en Syrie, et même de certaines années d'avoir des excédents de blé exportables. Dans le tiers-monde, c'est rare de voir cela, et ça c'était la grande conquête du régime, et c'était pour ça que la paysannerie était quand même une base sociale importante du régime. Alors, sur ce, surviennent les années de sécheresse, avec un gouvernement qui a déjà été fatigué par l'afflux de réfugiés irakiens. Tout le monde l'oublie. Il y a eu à peu près 1,5 million d'Irakiens qui sont venus peser sur l'économie syrienne. Et des politiques néolibérales...
imposées par le FMI.
Oh, même pas imposé, parce que la Syrie n'avait pas besoin du FMI, elle avait une bonne situation, mais c'était pour plaire à l'Occident en général. Ces politiques néolibérales ont entraîné la suppression de pas mal de subventions qui étaient données à l'agriculture. La situation devenait explosive, et on le savait, et malheureusement, le régime là... Alors, le régime était déjà, il ne faut pas l'oublier aussi... Il était sous encerclement international depuis l'assassinat de Rafik Hariri, puisqu'on a voulu d'abord faire accréditer la thèse. C'était le régime qui avait assassiné Rafik Hariri. Et puis la thèse s'est effondrée parce que c'était des faux témoins qui se sont rétractés, etc. Donc aujourd'hui, bon, le tribunal international spécial sur le Liban, il y a 3 ans, a décrété que c'était le Hezbollah. Bon, on sent que c'est de la politique, que ça n'a rien à voir
avec la vérité.
Il y avait eu une accalmie lorsque M. Sarkozy a voulu lancer l'Union pour la Méditerranée. Il a invité le président Assad à Paris. Mm-hmm. Il l'a mis à côté de lui au défilé du 14 juillet.
C'était... On oublie ces choses-là.
évidemment, on les oublie.
C'est comme Kadhafi, voilà. On oublie.
Et je pense que le régime s'est cru de nouveau réintégré, entre guillemets, si vous voulez, dans la communauté internationale. Et il a pensé aussi que sa politique anti-impérialiste classique, c'est-à-dire anti-américaine et anti-israélienne, et de soutien au Hezbollah, dont la cote était beaucoup montée après la guerre de 2006, où il a pu empêcher l'armée israélienne de revenir au Liban, ce qui n'était pas un mince exploit, il a pensé que ça le protégerait. En fait, non, évidemment, ça ne le protégeait pas, parce qu'au fond, il y a une obsession à deux ou trois facettes dans les politiques occidentales. C'est un, la sécurité d'Israël, et sa suprématie militaire dans la région. Donc, la victoire de Hezbollah, double victoire en 2000, lorsque, sous la pression du Hezbollah, l'armée israélienne décide de se retirer sans condition du Liban. C'est du jamais vu, n'est-ce pas? Et puis 2006, lorsqu'il essaye, Israël essaye de l'éradiquer de nouveau, hein, il résiste contre toute attente et il parvient même à couler un des navires israéliens. Donc, hop. Et donc, dans cette politique occidentale, il faut absolument, si vous voulez, que Israël puisse continuer tranquillement d'avoir cette supériorité militaire totale par rapport à tous ses voisins. Parlons pas de l'arme atomique aussi, des 200 têtes atomiques qui existeraient en Israël.
Existeraient, vous dites, hein, vous êtes prudent. Bah, hein.
Alors, la sécurité d'Israël suppose qu'on supprime le Hezbollah. D'où d'ailleurs récemment l'Union européenne qui décide d'inscrire sur la liste des organisations terroristes le Hezbollah. Ce qui va permettre dans l'avenir, lorsque l'armée israélienne voulait prendre sa revanche et donc refaire une attaque sur le Hezbollah au Liban, de dire « mais moi, je m'en prends à une organisation terroriste qui me menace, je fais une guerre tout à fait légitime ». Donc on a fait un grand cadeau à l'État d'Israël avec cela. Le régime syrien est très proche du régime iranien. Le régime iranien empêche aussi les Israéliens de dormir, puisqu'on l'accuse de vouloir développer l'arme atomique. Donc, si vous voulez, il y a cet axe Iran-Syrie-Hezbollah qui est dans le collimateur de l'Occident depuis longtemps. Et avec les développements supposés, n'est-ce pas, de capacités atomiques en Iran, la situation s'est échauffée. Et je pense que dans les cris de guerre guerriers qu'on a entendus, y compris en France, c'est oui, bon, allons-y, il faut en finir avec cet axe. En fait, c'est ça le problème de l'Occident. La grosse surprise, il y a eu deux grosses surprises par rapport aux décideurs occidentaux. Un, le régime ne s'est pas effondré comme un château de cartes, comme le faisaient beaucoup d'analystes, parce que s'il a perdu, justement, il y a un mécontentement des campagnes, et c'est dans des villes rurales que tout cela a commencé, en plus des villes rurales aux frontières. La ville de Deraa est à la frontière avec la Jordanie, et Idlib et Jisr-e-Shurur sont à la frontière avec la Turquie. Ce qui faisait que le mouvement de contestation n'avait pas grand-chose à voir avec les mouvements qui ont eu lieu en Égypte et en Tunisie.
C'est ça, vous le soulignez souvent dans vos interventions, parce qu'on a dit, voilà, c'est les révoltes arabes. Alors on sait, un engouement pour la Tunisie, à juste titre, et puis l'Égypte. Le Yémen, ça c'est un peu plus loin.
Alors le Yémen, on s'est tué maintenant. Oui.
Et puis alors, il y a eu la Libye. Et puis la Syrie. Et vous dites, non, la Syrie, c'est une autre histoire, ce que vous êtes en train de raconter.
C'est une histoire plus compliquée que celle qu'on a dit, n'est-ce pas? Là encore, le régime avait encore de la base sociale. Ce n'était pas un régime à la Moubarak complètement discrédité. Alors, que l'appel à la liberté, qui est un appel des classes moyennes dans le monde arabe, était là, bien sûr. Et puis 40 ans d'un parti unique, même s'il s'est mis comme décor deux ou trois petits partis nationalistes arabes avec lui, en alliance, les gens en avaient assez, ce qui est normal. Mais entre une situation de chaos, où le pays est détruit, où arrivent de l'extérieur, on parle aujourd'hui de 90 000 à 100 000 combattants qui sont venus de l'extérieur, et le régime en place, en réalité, beaucoup de gens préfèrent le régime.
La majorité ?
Je ne sais pas s'il y avait un référendum libre aujourd'hui, il y aurait des chances pour que la majorité aille au régime. Parce que le contraste est tellement fort entre la pagaille dans les zones libérées, et ce qu'on vous montre d'ailleurs de Damas, et ce que nous savons de Damas.
On en est où aujourd'hui ?
Elle se fait plutôt silencieuse, l'opposition de l'extérieur. Bon, elle a subi la bataille entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, parce que finalement, le changement de régime à Qatar, ou le changement de prince gouvernant, et son cousin, qui était redoutable, qui s'est opéré comme ça, comme par un coup de baguette magique. Ils sont tous les deux sortis du champ de l'observation politique, et il a remis le pouvoir au troisième fils de la Sheikh Ramosa, qui était la flamboyante épouse, troisième épouse du prince. Et ça, c'était le résultat d'une autre bataille dont la presse n'a jamais parlé, qui était la bataille pour l'influence dans le monde arabe, la rivalité entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais bon, quand vous regardez la carte géographique, à mon avis, c'était une bataille perdante, c'est bien évident.
Georges Cormes, ce que vous dites, à chaque fois que vous expliquez ce qui se passe dans cette région du monde, c'est le problème palestinien. C'est-à-dire que le camp palestinien devient de plus en plus une peau de chagrin, de plus en plus petite, de plus en plus rétrécie, avec ses occupations, ses colonisations qui grignotent à chaque fois ce territoire. Et ça, ça explique, pour vous, à vos yeux, puis pas seulement aux vôtres, une grande partie du conflit de cette région.
Oui, je pense que l'on cherche constamment, que ce soit consciemment ou inconsciemment, à faire diversion à l'existence de ce problème palestinien qui, à tous les critères d'éthique, de morale et de droit international, est insupportable. Toute une population, au début du XXIe siècle, qui est occupée, c'est insupportable. Quand on crée des diversions, c'est pas, telles que l'invasion de l'Irak, telles que le bombardement de la Libye, telles qu'aujourd'hui les interventions en Syrie, ça fait que l'opinion publique oublie la question palestinienne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas employer le mot « jihad ». Le jihad ne s'emploie pas quand des musulmans vont tuer d'autres musulmans, n'est-ce pas ? C'est complètement
absurde. Vous dites
takfir,
takfiriste.
Moi, je dis takfir, c'est-à-dire que vous rendez hérétique, vous n'acceptez pas une opinion religieuse qui n'est pas la vôtre. Et vous dites, c'est légitime de tuer dans ce cas-là. Et donc, aujourd'hui, on fait du jihad, mais alors au lieu de le faire en Palestine, on a été le faire en Afghanistan, puis on l'a fait en Bosnie, puis on le fait en Irak, puis on le fait aujourd'hui en Syrie, on le fait en Libye, on a été le faire en Algérie pendant 10 ans, c'est extraordinaire comme opération. Et aucun de ces combattants ne cherche à se battre en Palestine. Alors, il y a eu des histoires qui ont circulé sur ces combattants, notamment venus de Tunisie, qui pensaient qu'on les envoyait se battre pour libérer la Palestine. Et que ce qu'ils faisaient en Syrie, c'était la libération de la Palestine. Vous savez, on va recruter, et ces combattants sont recrutés dans les milieux les plus pauvres, les plus défavorisés, et les plus désespérés aussi.
C'est-à-dire les salafistes.
Oui, et là aussi, le mot salafiste, c'est un mot très noble, hein, c'est comme le mot jihad. Moi, je ne dirais pas salafiste. Salafiste, c'est retourner à la pratique des ancêtres. Bon, si vous prenez les ancêtres qui ont fondé la grande civilisation islamique, bon, elle est tout à fait respectable, elle était ouverte et elle était respectueuse des cultures des autres peuples. Je n'emploierai pas du tout ce mot-là, c'est une confusion de vocabulaire très grave. Et si vous avez une fabrique de takfiristes, pour employer le terme exact, hein, qui se passe entre les écoles religieuses de Pakistan et les écoles religieuses d'Arabie Saoudite, notamment. Vous avez les chaînes satellitaires saoudiennes, ou Al Jazeera, avec le Cheikh Qaradawi, n'est-ce pas, qui développent cette vision des choses qui est tout à fait extraordinaire. Hein, et d'un côté, si vous voulez dire, nous sommes différents des autres parce que nous sommes musulmans, une création d'une altérité hors norme. On s'habille différemment, on voit nos femmes et on est très fiers de tout ça. Et puis, en même temps, on est l'allié politique de l'Occident.
Oui.
Pour moi, c'est une situation intenable.
C'est une situation intenable, sauf que vous ne manquez jamais de rappeler que dans nos esprits en général, dans l'opinion, disons comme ça, autant que je puisse vous dire à l'instant même à quoi ressemble l'opinion. C'est quand même, on a d'un côté la démocratie, la modernité, la laïcité que nous représentons, nous autres Européens, États-Uniens, etc. Et puis de l'autre côté, on a ce monde-là, musulman,
oui, un petit avec peu arriéré. L'Occident est super allié.
Bon, les musulmans, ça peut encore aller, mais enfin, et après, il y a les islamistes, et puis on vient de parler de ces horreurs de salafistes, etc. Et voilà. Et alors, il faut que nous, nous défendions. Il y a notre camp, il y a le leur. Et il faudrait qu'ils civilisent un peu ces gens-là, quoi. Oui, ce que vous ne manquez pas de dire, c'est que ces mouvances islamiques, très souvent, il faut le rappeler à nouveau, notamment en Afghanistan, au temps des Soviétiques, c'est quand même bel et bien le camp occidental des États-Unis, oui, à l'époque, non, qui a créé...
Il faut remonter plus loin. Prenons la colonisation française de l'Algérie, elle s'est appuyée sur les éléments religieux. Le colonialisme a toujours instrumentalisé le religieux. Du temps de Nasser, on a combattu Nasser en appuyant les frères musulmans, n'est-ce pas ?
On a combattu, c'est-à-dire qui on ?
Ben la France, la Grande-Bretagne, à l'époque, et
à l'époque de
qui ont d'ailleurs attaqué l'Égypte. Et aujourd'hui, chaque fois, on a monté une martyrologie de frères musulmans, par exemple. Bon, alors c'est vrai que Nasser en avait mis un certain nombre en prison, d'autant qu'ils avaient tenté d'attenter à sa vie. Mais on n'a jamais parlé de martyrologie, par exemple, des membres du Parti communiste égyptien. Il y en a autant, sinon plus, qui ont été aussi en prison du temps de la dictature de Nasser. Donc, si vous voulez, c'est cette espèce de parti pris des deux poids, deux mesures qui est vraiment inquiétant. Aujourd'hui aussi, en Égypte, bon, combien de larmes on voit couler, n'est-ce pas ? Parce que, ah, comment un coup d'État militaire qui a enlevé un gouvernement légitime qui est arrivé par les urnes au pouvoir en Égypte. Bon. Mais ce que personne ne dit, c'est que ces mouvances islamiques, elles sont tellement fortement soutenues, y compris en médias, mais elles sont soutenues par les pétrodollars. Et ensuite, la forme, aujourd'hui, si vous avez cette idéologie, elle a un nom, c'est le wahhabisme, qui est la doctrine, l'idéologie officielle du royaume saoudien, et qui est une forme d'islam qui, jusqu'à il y a 40-50 ans, était considérée comme une hérésie islamique. Hein. Parce que extrémiste, et l'islam se définit lui-même comme la religion du juste milieu. Et donc là, on a affaire à une autre forme de religion, à mon sens, n'est-ce pas ? De même, je ne veux choquer personne, mais si vous voulez, vous avez aussi, dans les formes extrêmes de judaïsme militant en faveur de l'État d'Israël, vous avez aussi une espèce de crispation idéologique, d'exceptionnalisme et d'altérité qu'on veut s'attribuer, n'est-ce pas ? Qui va contre tous les principes de logique et de bon sens. On est une humanité une et l'homme est le même, où qu'il soit. Il y a de la diversité, mais il n'y a pas ces altérités, n'est-ce pas, qui sont à la mode aujourd'hui. D'ailleurs, c'est devenu un business académique, c'est même devenu un business économique. La viande halal, la viande cachère, etc. Tout ça, c'est un énorme business.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال غيم يقلد سربا من الكائنات على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين فلسطين
جورج كورم ça fait je vais pas vous vieillir mais ça fait une allez, on va dire une bonne cinquantaine d'années.
Oui, ça fait une bonne cinquantaine d'années.
Il
faut l'accepter.
Que vous observez, que vous commentez, que vous vous impliquez aussi. C'est pas seulement... C'est un observateur engagé que j'ai devant moi.
Un observateur éthique, oui, j'essaie.
Éthique, voilà, éthique, ok. Vous nous connaissez bien, vous connaissez bien la France. Parlez-moi un peu de l'évolution du rapport entre un pays comme le nôtre, enfin bon, si vous voulez l'Europe, mais enfin j'aimerais mieux qu'on reste sur la France, et puis cette région du monde. Vous évoquez Nasser. Avant d'enregistrer cette émission, on parlait de l'Ouest, on parlait du temps de De Gaulle, etc. Je reviens au titre du diplôme de ce mois-ci sur la débâcle de la diplomatie française. Parlez-moi un peu de cette évolution des liens et des regards entre ces deux parties du monde.
Oui, vous avez eu un instant très privilégié que j'ai vécu aussi intensément. Ça a été la politique arabe de la France que De Gaulle avait faite, qui a payé de beaucoup de dividendes, parce que à ce moment-là, vous avez eu l'intensification des relations économiques qui a été spectaculaire. Vous avez eu le Crédit Lyonnais qui a formé une grande banque franco-arabe à Paris, qui m'a demandé d'aider à mettre sur pied cette banque, ce que j'ai fait. J'ai passé 3 ans à Paris à l'époque. Ensuite, je crois que toutes les forces politiques françaises, y compris celles se réclamant du général de Gaulle, n'avaient qu'une idée en tête, c'était de défaire cette politique arabe de la France. Et je me souviens d'un interview de Roland Dumas après la première guerre d'Irak, que j'ai cité dans un de mes ouvrages, disant « On voit bien, puisque l'ensemble du monde arabe ne s'est pas soulevé contre nous, qui avons fait cette grande expédition militaire, que cette politique arabe de la France était une illusion, un mirage. Et heureusement que nous sommes en train de l'enterrer. » Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Je crois connaître un peu l'opinion française, ses humeurs. Il y a l'atlantisme qui s'est développé de plus en plus après la disparition de De Gaulle. L'idéologie européenne qui aujourd'hui se confond avec l'idéologie de l'OTAN. Parce que même le traité de la Constitution européenne prévoit que la politique étrangère de l'Union européenne est dictée par l'adhésion des États membres à l'OTAN. Donc l'Europe s'est refusée.
Et le conflit du Kosovo n'y est pas pour rien dans cette...
Oui, par exemple. Hein. Et puis, il y a toujours... Mais là, je pense qu'il y a une très forte dichotomie entre les décideurs politiques, les élites politiques, qui continuent d'être pro-israéliennes aveugles, et donc d'empêcher que le conflit s'apaise ou qu'on lui trouve une issue. Et puis l'opinion populaire, qui n'est pas du tout... D'ailleurs, il y avait eu des sondages d'opinion qui avaient révélé des choses que les Français ou les Européens, c'était à l'échelle de l'Union européenne, considéraient que Israël et les États-Unis étaient parmi les États les plus dangereux du monde.
Est-ce que vous parlez comme ça dans votre pays, au Liban
Oui. Non, moi, je parle très librement, parce que je ne m'en prends pas à des personnes données. Je ne suis dans aucun réseau.
Vous savez ce qui est très agréable, c'est qu'on se voit là. Vous êtes de passage à Paris, on vous a sauté dessus, on dit tiens, on va demander à Georges Corme quelques analyses, quelques points de vue. À chaque fois, c'est stimulant. Mais c'est extraordinaire parce que d'habitude, quand les gens viennent nous voir, c'est qu'ils ont un bouquin à vendre. C'est pas le cas. Non, vous travaillez sur quoi en ce moment?
Ah oui, je travaille alors sur un ouvrage qui va s'appeler « Pensée et politique dans le monde arabe ». Parce qu'il y a un vide abyssal, que ce soit en langue arabe ou en langue française. Aucun ouvrage. Hein. Vous n'avez que des ouvrages sur l'islam qui répètent tout le temps la même chose. Hein. Qui sont des ouvrages qui passent au-dessus de toutes les réalités. Moi, ce que je reproche souvent, y compris à des collègues d'université ou autres, c'est que les réalités socio-économiques sont totalement ignorées. Aujourd'hui, si on peut recruter tellement de djihadistes, entre guillemets, ou takfiristes, c'est parce que vous avez cette économie de rente ravageuse, une concentration de richesses colossale aux mains de quelques-uns. Vous avez eu la bombe démographique qui, en ce moment, donne son plein effet avec ces arrivées massives de jeunes sur le marché du travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'industrialisation. Essayez de trouver un produit industriel arabe vendu sur le marché international. Il n'y a pas. Et donc, la crise de chômage, elle est massive, massive. Quand vous regardez les statistiques, c'est la région du monde où le chômage des jeunes est la plus massive. Et donc, les révoltes arabes étaient prévisibles aussi. À un moment ou à un autre, ça devient insupportable. Et puis alors, vous avez une émigration de cerveau qui atteint des proportions extraordinaires, ce qui vide encore plus nos pays de leur substance, et ce qui permet alors à tout ce réseau d'ONG caritatives qui se disent islamiques, etc. C'est pour ça qu'ils gagnent des élections lorsqu'il y a des élections, parce que ils sont infiltrés dans tous les milieux populaires, dans les milieux ruraux, et donc l'élément libéral ou l'élément laïque, dans les élections, il a très peu de chances de les remporter. Même s'il représente la majorité de la population, comme on l'a vu lors de la dernière crise égyptienne, ou comme on le voit aussi en Tunisie, aujourd'hui.
Merci Georges Corme, à bientôt.
Merci
beaucoup.
Bientôt.
Kiri, qu'est-ce qu'on attend ? Une heure avec Georges Cormes. Je rappelle quand même le titre de son dernier bouquin pour lequel il était venu nous voir dans cette émission, pour une lecture profane des conflits. Mais vous avez aussi beaucoup de bouquins de Cormes qui sont passionnants, dont l'Europe et le mythe de l'Occident, la construction d'une histoire, par exemple, aux éditions de La Découverte. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier et Élodie Royer. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparée avec Jonathan Duong. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse avec Hervé Pochon et son temps de pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour, monsieur. Je voudrais faire ma rentrée des classes, s'il vous plaît.
Pour quelle section ?
Littéraire.
Littéraire ? Ce qui est mieux, le mieux, c'est d'aller directement voir.
D'accord.
Mais je ne sais pas si vous avez le droit de m'enregistrer comme
c'est
ça.
C'est vrai ? Si vous, vous voulez bien...
Moi, je suis les consignes.
Bonjour à tous et bienvenue à l'Université Paris Diderot, en compagnie de...
Dominique.
Voilà. Dominique, donc qui est à l'accueil. Est-ce que c'est intéressant d'être à l'accueil de l'université ? Est-ce que vous apprenez des choses ?
Oui, plein de choses. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs bâtiments d'accueil. Bon, il y a Lamarck, il y a Buffon, il y a Condorcet, il y a Lavoisier.
Est-ce qu'il y en a qui font leur rentrée des classes aujourd'hui ?
Oui, il y en a qui ont raté les premières rentrées de classe et ils le font aujourd'hui.
Ah, d'accord.
Oui, parce que c'était fait déjà 2-3 semaines.
Ah oui, quand même. Oui. D'habitude, on dit que l'université, ça commence les cours en novembre.
Ça dépend lesquels, ça dépend quel cours, ça dépend quoi. Mais sinon, en septembre, ça commence.
D'accord. Bon, ben, je vous remercie, Dominique, et bonne fin de journée, alors.
Merci. Hein. Ben, vous aussi.
Vous cherchez quelque chose ?
Oui.
Moi, vous cherchez quoi ?
Déjà, je cherche à accéder au deuxième étage.
Ah, ben, il faut prendre l'escalier, je pense.
Bah oui, mais toutes les portes sont fermées.
Et là, c'est pas ouvert, là ?
Non, la porte est fermée, en fait, au niveau du deuxième. Donc, j'y comprends vraiment
rien. Et vous venez suivre quoi comme cours, vous ?
Excusez-moi, j'ai vraiment pas le temps, là.
Non, mais...
Il faut que je trouve ma salle.
Ah oui. Bonjour, excusez-moi. Je cherche la salle de cours pour la rentrée.
C'est quelle heure ? C'est quand ?
C'est 17h.
Là, donc, on est lundi.
Ouais.
Bah, 17h, voilà, salle 378.
Troisième étage.
Troisième étage, à l'Eau-Farine, c'est en face, à l'Eau-Farine.
Ah ben voilà, merci. Je ne savais pas que ça existait, moi, le DEAU, c'est pour ça que je fais un reportage dessus.
Oui, c'est DEAU, c'est dans ce sens-là plutôt.
Oui. Diplôme d'accès aux études universitaires.
Oui, c'est pour les gens qui n'ont pas le bac. C'est une deuxième chance.
Ah, c'est bien ça, les deuxièmes chances.
Oui.
Est-ce que vous avez eu une deuxième chance dans votre vie ?
Oui.
Ah.
J'attends ma troisième maintenant.
Pour faire quoi ?
Je vous le dirai pas.
Oh, voilà. Bah,
c'est terminé, hein.
C'est terminé. Bon, je peux avoir votre prénom ?
Dominique.
Merci. Mais tout le monde s'appelle Dominique. Tout à l'heure, j'ai parlé à la personne de l'accueil, elle s'appelait Dominique.
Oui, peut-être.
Bon, et je vous laisse, moi aussi, j'ai cours à 378F. Vous attendez aussi ?
Ouais.
Y a personne ?
Non, pour moi, y a personne.
Bah, c'est bien, on peut discuter.
Oui, si vous voulez.
Qu'est-ce que vous faites là, alors ?
J'attends pour passer mon DAE.
Pourquoi vous voulez passer ce diplôme ?
Bah, déjà, d'une, pour continuer les études, pour passer une licence.
Et en fait, c'est un diplôme qui s'adresse aux gens qui n'ont pas le bac, c'est ça ?
Exactement. En fait, j'ai envie de me spécialiser dans tout ce qui est relations internationales, vu que je suis assez bon en histoire et en géographie et en géopolitique.
D'accord.
Bon, ça, on dirait pas.
Mais si, enfin, pas d'a priori. Oui, la vie ne fait pas le moine. Vous dites que vous êtes très doué là-dedans, c'est ça que vous avez dit, hein, oui. Et vous êtes très doué, mais vous n'avez pas passé votre bac.
J'ai passé mon bac, je ne l'ai pas eu, et j'ai laissé tomber les études pour travailler.
Pour faire quoi ?
Un peu de tout, hein. Réserve dans la gendarmerie, que ça soit un peu voir le monde militaire, boulangerie, pâtisserie, livraison, marché, aéroportuaire.
D'accord.
Peinture, électricien.
Ah oui, donc maintenant...
Polyvalence, la vie est très difficile et je pense qu'avoir un diplôme en poche, c'est toujours plus intéressant que rester qu'avec un niveau bac. Ouais. Sachant que j'ai un autre diplôme, j'ai un BEP, mais bon, il ne me sert à rien.
Un BEP en quoi ?
Électrotechnique.
Et je peux avoir votre prénom ?
Moi ? Ouais. Je m'appelle Majid.
Majid. Et votre âge ?
Moi, 26 ans.
Et vous avez de l'appréhension pour cette rentrée des classes ou...
Non, aucune appréhension. Non, non, aucune. Simplement, c'est le fait de revenir en cours. Parce que ça fait pas mal de temps, ça fait depuis 2005.
8 ans.
Ça fait 8 ans. 8 ans, ça fait pas mal d'années.
Parce que là, c'est gratuit, les cours ?
Non, les cours sont payants. Il y a une inscription.
Ça coûte combien ?
Ça m'a coûté 330 euros.
Pour l'année ?
Pour l'année, hein.
D'accord.
Et vous, vous travaillez
France Inter.
France Inter. Ouais. Vous savez que les journalistes ne sont pas très appréciés, vous savez pourquoi ?
Non.
Pas par rapport à leur métier. Parce qu'il y a des doutes de... qu'ils travaillent aussi pour les renseignements.
Ah, vous croyez que...
Mais bien sûr, c'est pour ça que tout le monde n'a pas confiance, n'a pas une totale confiance envers les journalistes. C'est pas question que c'est par rapport au métier de média. Dieu, le métier de média, il y a certaines choses qui sont censurées par l'État. Donc ça donne pas une totale liberté de la presse. Et secondo, quand on sait qu'il y a pas mal de services d'agents, que ce soit les RG ou les membres de la DST ou du RG, actuel DCRI, les gens, ils ont un peu... ils se méfient beaucoup.
Vous êtes la première personne qui me parle de ça. Je vous promets.
Ah bon ?
Ah oui, oui.
Ouais. Bah, partout. Hein.
Moi, souvent on me dit oui, on n'aime pas les journalistes parce que vous déformez nos propos, ou parce que... mais pas parce qu'on est des RG quand même.
Ça, c'est le rédacteur en chef qui fait en sorte qu'il y a des choses qui doivent être coupées ou autre. Mais bon, ça, c'est pas. Ouais.
Ah, moi, ce que vous me dites, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui le diffuse. Et il n'y a personne qui vérifie avant la diffusion.
Non, obligé.
Ah, je vous promets.
Il n'y a personne qui vérifie, c'est obligé.
Il n'y a personne.
Chacun a un patron.
Ah, il y a un directeur, mais il n'a pas le temps d'écouter tout ce qui va passer à l'antenne. Vous imaginez, il faudrait qu'il ait 3 journées en une. Mmh. Mais quel métier vous voulez faire après ?
Moi ?
Ouais.
On va servir à la patrie.
Dans les renseignements, alors, peut-être ?
C'est toujours intéressant de servir à son pays. Attends, Pouchon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain.
On connaît le père de la pomme de terre, c'est Parmentier. On ne connaît pas le père du petit pois.
France Inter et le théâtre de la commune d'Aubervilliers présentent du 10 au 31 octobre. Résumons-nous, la semaine a été désastreuse. Mise en scène par Charles Torgeman.
Le petit pois est un orphelin.
Christine Murillo, Julie Pilot et Dominique Pinon s'emparent avec gourmandise de la langue virtuose des chroniques d'Alexandre Vialat.
La mer sera agitée à très agitée, sauf dans le massif central.
Retrouvez Résumons-nous, la semaine a été désastreuse dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Ce soir, à 21h, Le Move et SFR présentent le concert privé exceptionnel de MGMT en direct du studio 105 de la Maison de Radio France. MGMT en concert privé, c'est ce soir, en direct dès 21h sur Le Move et en vidéo sur lemove.fr. Le Move, une radio de Radio France.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet.
Le rendez-vous était fixé à 16h cet après-midi. C'est parti donc pour l'examen du projet de réforme des retraites. Les députés l'ont entamé à l'Assemblée. Le vote solennel du texte est prévu pour le 15 octobre prochain. Nicolas Sarkozy a déjeuné aujourd'hui à la Grande Mosquée de Paris avec son recteur, Dalil Boubaker, qui est aussi le président du Conseil français du culte musulman. L'ancien chef de l'État n'a pas fait de déclaration à son arrivée ni à la sortie de la mosquée. Pas de déclaration donc sur le non-lieu prononcé pour lui dans le volet abus de faiblesse de l'affaire Bettencourt. En revanche, 10 mises en examen dans ce dossier devront en répondre devant le tribunal correctionnel, dont Éric Woerth, l'ancien ministre du budget. Arnaud Montebourg veut une feuille de route d'ici Noël. Le ministre du redressement productif a lancé aujourd'hui la course contre la montre du Made in France. Il a présenté à Bercy les personnalités du monde industriel qui piloteront les 34 plans de réindustrialisation de la France. Parmi eux, Carlos Ghosn, le patron de Renault, ou encore Antoine Frérot, celui de Veolia. Ces 34 projets sont censé positionner la France sur des secteurs stratégiques dans les 10 prochaines années. Smart va créer 200 emplois dans son usine de Hambach en Moselle. 200 emplois d'ici juin prochain. C'est la conséquence en fait du lancement de la troisième génération de la Smart Fortwo. Le site mosellan emploie actuellement 1475 personnes. 18 mois de prison avec sursis pour l'enseignante soupçonnée d'avoir eu une relation sexuelle avec une de ses élèves, une collégienne. Le tribunal correctionnel de Lille a rendu son jugement cet après-midi. Il est donc allé plus loin que les réquisitions du parquet qui avait demandé seulement 8 mois de prison avec sursis. Le tribunal s'est également prononcé pour une inscription de l'enseignante sur le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles. L'autorité de sûreté nucléaire annonce aujourd'hui qu'il y a eu un incident le mois dernier à l'usine Areva de Beaumont-la-Hague. Il est qualifié de niveau 1 sur 7. Ça s'est passé dans l'atelier de plutonium. Une alarme a signalé une valeur anormale de l'hygrométrie, la mesure de l'humidité dans l'air. En fait, plus l'humidité augmente, plus le risque de réaction en chaîne croît. Il n'y a pas eu toutefois d'incidence pour le personnel. Il respire à nouveau normalement, mais il n'a pas encore retrouvé l'usage de la parole. À Strasbourg, un homme de 65 ans souffrant d'un cancer a reçu un larynx artificiel en titane. Il a été posé l'an dernier, mais c'est la première fois que l'équipe médicale du CHU de Strasbourg communique sur le sujet. Toujours en Alsace, le Conseil général du Bas-Rhin a repris aujourd'hui l'accueil des mineurs étrangers isolés. Le département dit avoir reçu des garanties en matière de prise en charge de la part de l'État. Elle ne pouvait plus faire face à l'afflux de mineurs étrangers dans le département. Hervé Renard arrive à Sochaux et Daniel Sanchez, lui, quitte son poste d'entraîneur à Valenciennes. Valenciennes qui est actuellement dernier du championnat de Ligue 1 de football, en position donc de relégable. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Mercredi, dans la matinale de Patrick Cohen,
une rencontre avec Malala, la lycéenne pakistanaise de 16 ans, la plus jeune nominée de l'histoire au prix Nobel de la paix.
One child.
Un enfant.
One teacher.
Un maître d'école.
One book.
Un livre.
And one pen.
Un crayon.
Can change the world.
Ils peuvent changer le monde.
Malala, un entretien exclusif, mercredi dans le 7-9 de France Inter.
France Inter.
Bonjour Frédéric Lodéon.
Bonjour Laetitia Gaillet.
C'est à vous.
Et on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Tout à l'heure, dans un taxi, on écoutait France Bleu et j'ai entendu Olivier Py, le récent directeur du Festival d'Avignon. Il nous promettait une manifestation cet été de grande qualité et pour tous, il a insisté là-dessus. Il a bien raison. Il a dit aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup de propositions culturelles à Paris, c'est tout à fait vrai. Mais moi, je suis témoin aussi qu'en région, ben, il se passe énormément de choses. Par exemple, ce week-end, c'était l'ouverture de la saison de l'Orchestre d'Auvergne. C'était vendredi à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand avec le superbe orchestre d'Auvergne qui est internationalement connu. Et puis il y avait Roberto Forés Vessès, jeune chef espagnol plein de vitalité, de sensibilité aussi, de précision, c'est important pour un chef, avec une cantatrice Isabelle Druet, aussi charmante que talentueuse. Et puis un solide ténor américain de naissance, Donald Lightaker. Bah, c'était très très beau, c'était le Chant de la Terre de Gustav Mahler. Et puis j'ai pu aussi assister en Vallespire, c'est-à-dire autour de Céret, vous savez, on descend à Perpignan, et précisément à Saint-Jean-Plat-de-Corps, il y avait un concert dédié à Pau Casals, Pablo Casals, si on parle en castillan, et là, c'est Pau Casals, c'est en catalan. Donc, un très beau moment avec François Rago, qui est un violoncelliste qui fait énormément pour la musique dans sa région et puis ailleurs. Michel Peus, pianiste et chef d'orchestre et pédagogue, qui s'y est mis aussi. François-Michel Rignol, le pianiste, le quintette Marie Nostrum Musicae, enfin bon, tout ça, c'était dans un très bel environnement avec beaucoup de chaleur, presque familiale. C'était en mémoire d'un luthier qui s'appelle Rago aussi, c'était le grand-père de François le violoncelliste, et puis c'était en mémoire aussi d'André Peus, le père tout simplement de Michel, pianiste et chef d'orchestre. Voilà, ça c'est ce qui se passe en région, et il se passait aussi pas loin de là, le lendemain, à Vivès, à la salle polyvalente, un concert de saxophone, ça paraît étonnant, mais ça existe et c'est magnifique. Quatuor de saxophone, des gens venus de Barcelone, Minima Distancia, ils s'appellent comme ça, parce qu'ils ont l'intention, comme nous-mêmes ici à France Inter, bien sûr, de rapprocher la musique, de réduire les distances entre le public potentiel et la musique. Donc c'était formidable, sous la férule de David Sayras, saxo-soprano, entre autres, il joue aussi du saxo-alto, puis compositeur, il nous a joué avec ses collègues beaucoup de compositions. Voilà, il s'en passe en région, et il ne faut jamais oublier ça. Ben voici une belle région, c'est la Provence, incarnée musicalement par Georges Bizet dans son Arlésienne, Carillon.